Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux des élections se sont tenus vendredi dernier en Iran. La population a été appelée aux urnes pour élire à la fois un nouveau parlement et également renouveler l'Assemblée des experts, une instance religieuse chargée de la nomination du guide suprême. L'enjeu de cette élection, la première depuis le mouvement citoyen Femmes, Vie, Liberté en 2022, le niveau de participation. Les premiers résultats affichent un taux de 41%, soit un taux historiquement bas. Que nous disent ces résultats de la légitimité du régime iranien? Celui-ci pourrait-il ressortir ébranlé de ces élections? Bonjour Azadeh Khan.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Cité et spécialiste de l'Iran. Alors le taux de participation est vu comme un test de légitimité pour les religieux au pouvoir. La République islamique donc se préoccupe quand même de la légitimité de ces élections, de son pouvoir, de son régime auprès de la population.
Oui, parce que bon, déjà c'est dans leur constitution et ils essayent effectivement à travers le vote et les élections qui sont organisées tous les quatre ans dire qu'ils ont encore de la légitimité, sauf que pour les législatives, ce qu'on constate c'est que le taux de participation était en baisse constante, mais cette fois-ci c'est un vrai camouflet dans la mesure où le guide de la révolution, Khamenei, avait appelé les électeurs de participer au vote en disant que c'était un devoir religieux et ceux qui ne participeraient pas seraient à l'écoute des forces étrangères, etc., etc. Donc, et pourtant, on sait que le taux d'abstention est vraiment beaucoup plus élevé que le taux qui est annoncé, disons, officiellement. Et beaucoup de bureaux de vote sont restés vides dans énormément d'endroits en Iran. Et de toute façon, il y a beaucoup de provinces clés comme la province de Téhéran, parce que la capitale, où le taux de participation était très bas. Et si vous regardez le nombre, par exemple, de la première personne élue à Téhéran, c'est absolument, ça montre qu'il n'a obtenu que à peine 200 000 votes ou quelque chose comme ça, alors que le nombre d'électeurs s'élève à plusieurs millions. Donc, on constate qu'il s'agissait d'un camouflet pour les tenants de pouvoir en Iran.
Et alors, ce taux est bas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a été un peu rehaussé par le pouvoir? Est-ce que ces élections sont des élections dont la sincérité est garantie?
Absolument pas. Aucune élection en Iran n'est sincère, dans la mesure où, premièrement, vous le savez, il y a le filtrage en amont de l'ensemble des candidats. Cette fois-ci, même les candidats les plus, les réformistes les plus modérés n'avaient pas été habilités. Le président Rouhani, l'ancien président qui était candidat aux élections pour l'Assemblée des experts, n'a pas été habilité. Cette fois-ci, aussi, il ne faut pas oublier, beaucoup de réformistes qui participaient aux urnes jusque-là avait appelé au boycott. Le président Khatami, le réformiste, ne s'est même pas déplacé pour voter. Donc, effectivement, et puis il y avait beaucoup d'appels aussi au boycottage de la part des organisations étudiantines, des organisations de femmes. Donc, on s'attendait à un taux très bas et on sait que pour eux, si vous voulez, le taux de participation de moins de 40%, c'est impossible. Donc, il faut absolument bourrer les urnes pour arriver au moins à 40%. Mais tous les reportages que nous avons, les gens qui filmaient les bureaux de vote sur les réseaux sociaux, etc., disent que les bureaux de vote étaient, dans beaucoup de cas, vraiment vides.
Et pourtant, en 2020, déjà, le taux avait été plutôt bas, puisque le taux de participation était de 42,5%. Donc déjà un taux qui n'était pas très important.
Absolument. Déjà, ça a commencé en 2021, avant même le mouvement Femmes, Vie, Liberté pour la présidentielle. Et puis, ça a continué effectivement à baisser. Effectivement, la population montre son désaccord avec ce régime la population, on sait, les électeurs souhaitent dans leur majorité le changement de ce régime, mais le disent maintenant de façon, disons, très pacifique en montrant effectivement, d'autant que que lors des accords, d'autant qu'il s'agissait en fait des élections entre les ultra-conservateurs et les ultra-conservateurs, parce que même les conservateurs n'avaient pas été souvent habilités. Donc, aucun intérêt de participer. Les gens disent à quoi bon, parce que de toute façon, notre avis n'est jamais pris en compte. Et donc, c'est l'ensemble du régime, en fait, qui est rejeté par une majorité des électeurs.
Et alors, cela, évidemment, est relié, doit être relié à ce mouvement de protestation Azadékian, autrement dit, à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Quels sont les liens? Comment on peut essayer de corréler les deux phénomènes?
Écoutez, on a vu énormément d'appels au boycott de la part déjà des parents, des familles, des personnes tuées, des jeunes qui ont été tués. D'un autre côté, lors des précédentes législatives, il y avait des provinces sunnites, par exemple, notamment au Baloutchistan, où les chefs religieux sunnites appelaient les électeurs à participer aux urnes pour dire qu'ils appartenaient à l'Iran, à la politique nationale, cette fois-ci, bien évidemment, après la pression féroce qu'ils ont subi. Aucun appel, il y avait même des boycottages, des élections. Donc, on disait, par exemple, le slogan, c'était « si vous participez à ces élections, à cette mascarade, c'était comme si vous participiez à une deuxième fois à l'assassinat de nos jeunes ». Donc voilà, il y avait effectivement aussi une campagne de boycottage aussi de la part des amis, des parents, des proches, voire des opposants du régime, afin que les électeurs ne participent pas à cette mascarade.
Et donc, il y a évidemment un lien à faire. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense. Et puis alors, il y a également des variations en fonction des bureaux de vote. Ça aussi, ça doit permettre de voir là où l'abstention est la plus forte, si la protestation contre le régime est également singulière à Azadékian.
Oui, pas bureau de vote, je dirais, parce qu'en Iran, il n'y a pas de carte d'électeur comme en France, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez voter n'importe où avec votre carte d'identité, ce qui rend très, très facile aussi les fraudes. Une personne peut dire... on peut faire voter une personne plusieurs fois, déjà. Ça arrive, on a eu des témoignages sur les réseaux sociaux, déjà cette fois-ci aussi. En tout cas, on peut voir que la province de Téhéran, pas seulement... la province d'Alborz, enfin, il y a plusieurs provinces où le taux de participation était très bas, aux alentours de 20% selon les chiffres officiels. Qu'à Téhéran même, le Parlement est à moitié à étaler au deuxième tour. Tout ça montre effectivement, encore une fois, le taux de participation très très bas, et même les bureaux de vote ou les quartiers habités par exemple, surtout les ultra-conservateurs, bien sûr, leur taux de participation était plus élevé, mais en sortant des bureaux de vote, il y a même des candidats conservateurs comme Tahari qui avaient annoncé qu'effectivement, ils savaient que la population, en particulier les jeunes, n'allaient pas participer à ces élections.
Il y a effectivement ce souhait donc de voir ce régime tomber. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Dans quelle mesure ce mouvement de protestation qui, hélas, a été payé très cher par beaucoup de protestataires, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Quels peuvent être les développements ultérieurs?
Écoutez, c'est très difficile à répondre à cette question parce que la répression, vous le savez, est vraiment très, très féroce. D'un autre côté, le régime islamique qui a perdu toute sa popularité à l'intérieur a déjà essayé depuis les plusieurs dernières années de se renforcer à travers ses ingérences dans la région, à travers l'aide massive financière et militaire apportée à ces groupes de proxy, en particulier en Irak, mais aussi au Liban, en Syrie, au Yémen et ailleurs. ailleurs, et donc de créer davantage de tensions. Donc ces tensions effectivement régionales peuvent influer aussi sur la l'émergence d'une alternative politique à l'intérieur du pays, d'autant qu'il y a de plus en plus de menaces américaines ou d'une intervention américaine, même si on sait que les États-Unis ne veulent pas intervenir, mais en fait c'est une menace qui est entretenue en tout cas par les tenants du régime. Pour vous dire, la situation régionale influe sur l'émergence d'une alternative à l'intérieur de l'Iran. Cette fois-ci, je pense, le message, par exemple, de quelqu'un comme le président Khatami ou l'ancien, ou par exemple Mousavi, n'oublions pas qu'il avait dirigé le mouvement vert, contestation vert de 2009, et qui avait appelé massivement non seulement au boycottage de ces élections, mais aussi au changement de régime. Quand même, ce sont ces deux personnalités qui restent un peu populaires parmi leur propre électorat. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'une alternative puisse émerger depuis l'intérieur du pays. Je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une alternative faite à Washington ou à Paris, par exemple. Mais cela dépendra de la façon dont la diaspora va travailler avec l'opposition interne. Cela dépendra comment les choses vont évoluer. Mais ce qu'on constate, c'est que de toute façon, le verrouillage du système politique est telle que même les réformistes les plus modérés ne peuvent plus espérer pouvoir changer les choses de l'intérieur. Et donc, l'hypothèse de changement de l'ensemble de ce régime devient de plus en plus une réalité. Et donc, je pense qu'on va dans cette direction, mais ça prendra du temps, bien évidemment.
Merci beaucoup, Azadeh Kian. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Cité. Dans quelques secondes, eh ben on sera par exemple avec Alexandra Delbo, elle évoquera l'intégrité scientifique à l'INSERM.